Merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun. C'est une grande joie pour moi d'être de retour à la maison. Je le dis humblement parce que ça fait tellement d'années que j'ai quitté Cossonay que j'ose pas parler d'un retour à la maison, mais je me sens très proche. Je retrouve le climat d'antan et l'église de Cossonay. Vous êtes fidèle à vous-même, une église familiale et joviale. Merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'avoir aussi revu. Déjà eu le temps de partager avec plusieurs d'entre vous tout à l'heure avant le culte. Alors c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. J'ai vécu de grands moments ici, dans mon enfance, mon adolescence. Ici, pas dans ce lieu, on était à la Grand-Rue 16, mais enfin, nous étions la communauté que vous connaissez aujourd'hui, qui a évolué, qui a accueilli d'autres personnes, et c'est très beau de voir ce renouvellement et cette bonne participation ce matin au culte. Merci à Claude Alain d'assurer la technique et de mettre le PowerPoint en mouvement, pour que vous puissiez suivre avec moi cette présentation en deux temps, en deux volets. C'est vrai, un moment d'information sur l'Église persécutée et les chrétiens d'arrière-plan musulman en particulier, mais également en deuxième temps de cette prédication, un moment évidemment de message où j'ouvrirai la Bible avec vous. Alors merci de faire accueil à portes ouvertes et aux chrétiens qui souffrent. Nous avons proclamé dans la louange déjà la nécessité de la prière, et en introduction, vous nous avez rappelé la démarche à suivre quand on est à Jésus. Il nous faut savoir prier avec témérité, avec foi, avec courage, et nous arracher à ce monde parfois qui porte notre cœur parfois au doute ou à la déraison. Il nous faut rester accrochés fermement à Jésus, et c'est ce que vivent nos frères et sœurs persécutés dans l'épreuve. Peut-être sommes-nous plus enclins à cette proximité avec Jésus. Sommes-nous peut-être plus conscients de cette nécessité et de cet avantage que nous avons à manifester une foi priante, veillante et agissante. Alors, Portes Ouvertes se plaît à accompagner ces chrétiens dans le monde et agir en leur faveur par toutes sortes de moyens, petits et grands. Et on m'a dit, il faut tendre la télécommande vers Claude Alain. Mais même quand je le fais, la télécommande patine. Ça va être une longue prédication. Donc voilà, agir pour la cause des chrétiens persécutés. Je vais m'amuser en tout cas. C'est là-haut ? Non, on m'a dit c'est là-bas. J'obéis. Depuis plus de 60 ans, dans plus de 60 pays en fait, plus de 70 aujourd'hui, par évidemment des livraisons de Bible, de l'aide humanitaire. Et quand je dis Bible, évidemment, il y a toutes sortes de littérature chrétienne liée à la formation des disciples de Jésus là où la foi coûte le plus, et aussi des pasteurs qui ont besoin d'affermissement et d'éducation théologique. On parlera des chrétiens d'arrière-plan musulman, enfin on, c'est pas moi qui vais tellement vous instruire sur leur sujet, c'est la vidéo qui suit qui le fera à ma place. Vous rappelez que Portes Ouvertes publie chaque année son index mondial de persécution, c'est une recherche fouillée qui fait autorité même dans le monde séculier et qui nous aide à déterminer notre action en faveur des plus de 6 millions de chrétiens que nous aidons chaque année dans le monde. C'est beaucoup de monde en matériel et en formation, bien sûr, et dans l'accompagnement par les visites et la prière. Aujourd'hui, nous sommes évidemment rivés, comme on nous l'a rappelé, sur l'Est du continent européen, l'Ukraine, la Russie, mais évidemment que dans bien d'autres contrées du monde, les guerres font rage et la persécution également. L'Afghanistan, vous vous en souvenez peut-être, nous en parlions en fin d'année passée, lié au retrait américain et à la reprise du pouvoir par les talibans, les chrétiens ont largement souffert de cette passation infructueuse du pouvoir, bien sûr, qui a vu les libertés fondre et les chrétiens fuir ou rester totalement clandestins dans ce pays où l'islam règne en maître et seigneur. Une petite vidéo pour vous instruire sur la condition de nos frères et sœurs qui sont issus du monde musulman en Afghanistan, mais ailleurs aussi dans le monde. Merci Claude Alain pour la vidéo.
J'irai voir les autorités pour faire enlever ton nom de ma famille, parce que tu es chrétien. Il a dit, je ne peux te rencontrer que pour te tuer. Je t'aurai, où que tu sois. Je te le promets, je t'aurai et je te tuerai.
Un parmi des millions, isolé et seul. C'est ainsi que se sentent beaucoup de chrétiens partout dans le monde. Ces ex-musulmans ayant grandi dans un environnement à majorité musulmane, par exemple au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne ou en Asie centrale. Partout dans le monde islamique, des milliers de personnes tournent le dos à l'islam et deviennent chrétiens. Un réveil incomparable dans un monde où le fait de se détourner de l'islam est un crime qui mérite même la mort. Le risque en vaut la peine pour eux. Bien des musulmans ne sont plus satisfaits de leur religion. Ils commencent à chercher des réponses, surtout dans la foi chrétienne. Ils cherchent en ligne, avec des amis chrétiens ou dans la Bible. D'autres rencontrent Jésus directement dans des rêves ou des visions.
J'ai rêvé du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu une lumière et j'ai entendu une voix qui me disait « Tu es sur le bon chemin ». Le chemin que tu avais emprunté n'était pas le bon, mais maintenant, tu es sur le bon chemin. Cette rencontre avec Jésus a tout changé, toute ma manière de penser.
La plupart d'entre eux doivent se retenir pour ne pas partager leur nouvelle foi en Jésus avec leur famille. La sécurité, le soutien et l'identité, c'est ce que perd un musulman en décidant de devenir chrétien. Car cette décision amène la honte sur la famille élargie et est impardonnable. C'est ainsi que des membres de famille proches deviennent des persécuteurs.
J'ai dit à mon père, en face, que j'étais chrétien. Il m'a répondu, « Alors prends tes affaires, je ne veux plus te voir dans ma maison. Ne reviens jamais ici, tu n'es plus mon fils, je ne te connais pas. » J'ai reçu des menaces de mon oncle. Il m'annonçait que quiconque me trouverait pourrait me tuer. Je lui ai dit, « Parlons-en. » Il a dit, « Je ne peux te rencontrer que pour te tuer. Je t'aurai, où que tu sois. Je te promets, je t'aurai et je te tuerai. »
Il m'a dit des choses qui m'ont profondément blessé. Il m'a dit, « Une prostituée qui croit en Mahomet, je l'honore et je l'appelle sœur. Mais toi, bonne fille, vierge, belle personnalité, tout cela ne compte pas pour moi, parce que tu es chrétienne. Elle, je peux l'appeler sœur, mais toi, non. »
Beaucoup de chrétiens d'origine musulmane vivent dans la peur d'être découverts. En général, ils ne peuvent fréquenter des églises officiellement reconnues parce que celles-ci n'ont pas le droit d'accueillir des chrétiens d'origine musulmane. Si des rencontres avec d'autres chrétiens sont possibles, ce n'est qu'en secret, dans des églises clandestines.
Moi, je suis sûre que même si je vivre seule, Dieu il n'allait pas me laisser. Dans la Bible aussi, ils nous disent qu'on doit être une communauté avec tous les chrétiens. Même s'il n'y avait pas de chrétiennes ici, ou des chrétiens, peut-être j'allais chercher des autres chrétiens.
Mais ces rencontres clandestines risquent d'être découvertes par les services secrets de leur pays.
On a sonné à la porte et quelqu'un est allé ouvrir. C'était la police secrète qui a fait irruption chez nous. Ils ont commencé par nous séparer violemment. Ils ont crié, nous ont insultés. Assis, tout le monde, assis, personne ne parle. Ils ont commencé à fouiller toute la maison. Ils ont pris tout ce qui avait un rapport avec le christianisme. Des livres, tout ce qui était en lien avec Jésus, la croix, tout.
Malgré le danger, la foi chrétienne se répand rapidement dans le monde islamique. Uniquement parce que les chrétiens ont le courage de confesser le message de Jésus malgré tous les risques. Priez pour les chrétiens d'origine musulmane. Priez pour que Jésus rencontre encore beaucoup d'autres musulmans. Priez aussi pour les chrétiens, qu'ils trouvent d'autres chrétiens pour vivre la foi ensemble. Priez pour ceux qui sont isolés, qu'ils persévèrent dans leur foi et ne retournent pas à l'islam par peur.
Voilà, nous aurons l'occasion de prier tout à l'heure en fin de message. Nous reviendrons avec quelques sujets de prière sur cette vidéo notamment, et un témoignage qui suivra d'ici quelques slides, une vidéo plus courte d'une lettre qui vous sera lue d'une de ces femmes chrétiennes issues d'un pays musulman, là où il est extrêmement difficile de vivre la foi. Évidemment que l'Afghanistan est l'un d'eux, peut-être le pays où l'islam est le plus rigoureux, un pays après l'Arabie Saoudite qui a élevé l'islam en rang de religion hégémonique et nationaliste. Les chrétiens, ils vivent tout à fait en secret. Il n'y a plus d'église, même les groupes de maisons. Ici, vous avez à l'écran une église qui était celle de la chapelle dans l'ambassade d'Italie, mais qui a été fermée suite au Covid en mars 2020. Donc, il n'y a plus d'église officielle, même liée à la présence d'une autorité étrangère dans le pays. Et toutes les églises de maisons, aujourd'hui, ont été dissoutes suite à l'arrivée des talibans. Donc, c'est une église parfaitement souterraine. Il faut vivre caché. Ou alors même encore fréquenter la mosquée et prier Jésus en secret parmi les musulmans. Persécution des convertis donc d'origine musulmane. Vous en avez eu un petit échantillon tout à l'heure dans cette vidéo témoignage. Nous allons écouter par le biais de cette vidéo qui suit le témoignage d'une femme, Zabi, un prénom d'emprunt bien sûr, cette lettre dont je vous ai parlé. Nous prierons aussi tout à l'heure en fin de prédication pour cette femme en particulier.
Ceci est un message de la part d'une chrétienne d'Afghanistan. J'ai grandi en Afghanistan. Ma famille et moi sommes des chrétiens clandestins. Il y a quelques années, les talibans sont venus. Ils ont pris mon père à cause de sa foi chrétienne. Ils l'ont torturé et tué. Quelques mois plus tard, mon frère a aussi disparu. Nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021, ma mère et moi avons réussi à fuir dans un autre pays. Notre situation est désespérée. Nous n'avons pas de nourriture et pas d'habits de rechange. J'ai de l'argent sur mon compte bancaire, mais je ne peux y accéder depuis ici. Mon visa expire bientôt. Qu'est-ce qui m'arrivera alors? Je prie de pouvoir quitter ce pays et aller dans un lieu sûr. Je devrais peut-être vivre dans la clandestinité, ou alors je serai déportée en Afghanistan où je risque d'être tuée. Je me sens seule et sans espoir. Je suis déprimée. Honnêtement, comment allons-nous vivre, ma mère et moi? Je remercie Dieu pour la nourriture et les habits que vous nous avez apportés. Votre soutien financier et vos prières sont un encouragement pour nous. Vous êtes une lueur d'espoir pour moi. Il y a une chance que je survive.
Voilà un témoignage parmi tant d'autres de ces femmes et de ces hommes qui vivent aujourd'hui, en 2022, une situation bien étrange par rapport à la nôtre. Et on ne peut pas rester, évidemment, les bras croisés. Que fait Portes Ouvertes pour ces chrétiens d'origine musulmane en Afghanistan, plutôt depuis les pays limitrophes à l'Afghanistan, puisqu'il est extrêmement difficile d'accéder dans le pays aujourd'hui, mais depuis le Pakistan, où nous opérons un grand nombre de projets, notamment l'alphabétisation des femmes, évidemment, qui ne peuvent pas fréquenter l'école, des projets de formation professionnelle, de l'aide d'urgence, comme vous l'avez entendu dans la vidéo, de l'aide humanitaire, donc, les biens de première nécessité lorsqu'il faut. En faveur des femmes, il y a tout un volet de formation professionnelle au Pakistan. En tout cas, des dizaines de milliers de femmes sont formées pour qu'elles aient un métier et puissent exercer ensuite ce travail pour subvenir à leurs besoins. Lorsque les maris ont été emprisonnés ou qu'ils sont passés par la mort, il faut bien trouver une manière de subvenir à ces besoins. Formation de disciples, des pasteurs, bien sûr, une aide psychologique post-traumatique et la prière. C'est la première des demandes des chrétiens persécutés lorsque nous sommes leur vis-à-vis, c'est prier pour nous. Bien d'autres projets encore dans bien d'autres parties du monde sont répertoriés sur le site de Portes Ouvertes. Que pouvons-nous faire? Question qui nous interpelle. Des petites choses très simples. Après, nous ouvrirons la Bible ensemble. Que pouvons-nous faire? Nous informer. Évidemment, je suis de passage ici. visite la Suisse romande, les églises de Suisse romande à longueur d'année, de Genève jusqu'à Porrentruy. Les tournées, c'est tous les 2 à 3 ans, je retrouve une église connue que j'ai eu visitée par le passé. Donc c'est peu fréquent, c'est peut-être un rappel ici et là de temps à autre. Le dimanche de l'église persécutée, d'année en année aussi, sollicite votre attention sur la situation de ces chrétiens en particulier. Vous pouvez rester informé pour autant par le biais du magazine de Portes Ouvertes, qui est un mensuel gratuit qui vous est acheminé par la poste. Il suffit de remplir la petite carte qui est à côté de vous et me l'attendre à la sortie. Le magazine est rempli de petites nouvelles pertinentes et encourageantes. Bien sûr, c'est un sujet délicat et difficile, mais lorsque nous sommes touchés par la souffrance nous-mêmes, et tout à l'heure à l'entrée, j'ai déjà discuté avec plusieurs d'entre vous qui passent par des moments difficiles, la maladie d'un proche, ou le témoignage d'Olivier tout à l'heure nous a aussi émus. Bien sûr que de passer par des moments difficiles ou étroits de la vie humaine fait partie de notre lot aussi ici. Et lorsque nous sommes confrontés à la souffrance ou lorsque nous lisons ces articles, nous sommes gagnés par la compassion et par le besoin de prier. Pour nous-mêmes, bien sûr, mais pour nos proches et pour les chrétiens au loin. Et le magazine de Portes Ouvertes vous permet cette prière par le biais d'un petit fascicule qui accompagne chacune de vos journées et qui donne des sujets pertinents pour vous rappeler la prière pour ces chrétiens. Chrétiens audacieux, je profite, une petite pub, un nouveau podcast de Portes Ouvertes qui est déjà sur Spotify. Vous y retrouverez la voix du bonhomme que vous avez ici aujourd'hui sur l'estrade avec une journaliste qui travaille avec nous à Portes Ouvertes. Podcast s'appelle Chrétiens audacieux. Il y en a 3, des sujets brûlants, des sujets profonds, des sujets pertinents pour notre foi aujourd'hui qui nous mettent en relation avec l'Église persécutée. Priez, je l'ai dit, par le biais de ce magazine et de son fascicule de prière. Donnez, évidemment, vous êtes les bienvenus et devenir actifs par le biais de voyages. C'est toujours possible post-Covid, on est reparti, ça y est, on repart à la visite, à la rencontre des chrétiens persécutés. Écrire. Et puis devenir bénévole, même devenir une antenne active de Portes Ouvertes ici, à l'église évangélique Fré de Cossonay, c'est possible d'être ce porte-parole pour les chrétiens persécutés. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous, et nous prierons tout à l'heure, 10 caractéristiques d'une église forte dans l'épreuve. Alors il ne s'agit pas juste de l'église afghane, ou des chrétiens issus de milieux musulmans qui souffrent sévèrement à cause de leur foi si elle est découverte, il s'agit aussi de nous. Je l'ai dit, nous vivons dans un climat de grande liberté et à la fois nous en avons tant que nous oublions parfois la nécessité de prier, de nous accrocher au Seigneur et de vivre des vies de foi qui en valent la peine. On vit un petit peu en dilettante et finalement, parfois notre foi s'étiole, notre passion diminue, notre amour pour le Christ et pour son Église vont volo parce qu'il nous manque peut-être quelques écharpes dans la chair ou quelques difficultés, ça et là. Personne ne les veut. Et ce n'est pas le plan du Seigneur que de nous encoubler pour susciter notre foi. Mais soyons honnêtes, les chrétiens persécutés savent qu'il est nécessaire de prier. Nous autres, parfois, sommes gagnés par une certaine forme de laxisme. Et ce message, j'espère, sera pour chacun de nous un rappel que vivre l'Église forte, de manière passionnée et bénie, vaut la peine et que c'est notre appel. C'est notre appel qu'on soit chrétien dans les pays où Portes Ouvertes travaillent ou ici, en Suisse et en Europe occidentale. Alors, 10 caractéristiques, vous allez me dire, c'est beaucoup, c'est long, vous inquiétez pas, j'ai la montre en main, je sais quelle est l'échéance approximative, vous verrez. Nous allons les traverser de manière rapide, mais claire, j'espère. Acte 2, 37 à 47, un magnifique texte qui nous plonge dans l'histoire de la première Église et de sa visitation par l'Esprit-Saint, le temps de sa naissance, réveil spectaculaire, dont nous lisons dans les actes quelques traits caractéristiques qui vont nous aider à parcourir ces 10 points que je vous ai annoncés. Après avoir entendu ce discours, il s'agit du discours de Pierre à la Pentecôte, qui annonce aux disciples présents le Christ mort et ressuscité. Les Juifs présents, les milliers venus pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu. » les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient. C'est peut-être à partir de là que le texte devient particulièrement pertinent pour notre thème. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour avec persévérance. Chaque jour avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quel régal et quelle grâce que d'avoir ce texte. Merci à Luc, l'évangéliste, de l'avoir pondu pour nous, inspiré du Saint-Esprit, pour nous rappeler la beauté de l'Église. Une Église qui fait l'expérience quotidienne de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce ton cas? Est-ce le mien? Est-ce que tous les jours, nous glissons du lit vers la présence de Dieu, le matin tôt, ou tard le soir, ou que sais-je, dans la voiture en allant au travail, ou à la pause midi si tu as un moment de solitude? Que sais-je? As-tu? Ai-je le temps d'être comme en extase intérieure, sans charismagnétisme exagéré, mais comme rempli de reconnaissance et d'admiration pour Jésus. Ai-je le temps de me laisser ainsi inspirer et remplir par la puissance du Saint-Esprit? C'est tout un défi, je l'ai dit, pour nous autres dont les agendas sont devenus surchargés de distractions et de toutes sortes d'obligations. Les membres de cette Église marchent avec le Seigneur. C'est ton cas, c'est le mien. Nous sommes en route. Et j'ai fait mes premiers pas de nouveau-né ici. Enfin, pas ici physiquement, répète Grand Rue 16, mais c'était ici, chez vous. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. C'est là que j'ai été baptisé. Philippe, qui est au dernier rang, m'a baptisé. J'étais rempli du Saint-Esprit et je me souviens du pasteur René Russell après un camp de ski où nous avions été visités par le Seigneur. Dans sa prédication, il avait dit « Les gars, les filles, en tant que capitaine de ce navire, je vous dis, hissez la voile, allez à fond. » C'était une grande bénédiction d'avoir un pasteur qui reconnaisse le vécu de ces jeunes nés de nouveau et qui les encourage à marcher en nouveauté de vie et à vivre des choses fortes avec le Seigneur. C'est chez vous que j'ai vécu personnellement ces choses. Et nous avons à persévérer. Connaître Dieu, c'est comme connaître son épouse ou son époux. C'est une route qui nous mène du début d'une vie amoureuse jusqu'à la fin de nos jours, n'est-ce pas? Il faut persévérer dans cette communion, dans cet apprentissage de la relation et dans la beauté de faire l'expérience d'un amour fondé, non pas seulement sur l'émotivité de la relation, mais sur les profondeurs d'une communion avec l'autre que je connais. Bien sûr que lorsque nous connaissons Dieu, pousse alors aux branches de nos vies une multitude de fruits délicieux, que je me plais ici à répéter, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Qui n'a pas besoin de ces fruits-là? Personne. Nous en avons tous vraiment besoin. Et ça, ce n'est pas le fruit de la séduction du jardin d'Éden, c'est le fruit de la vie, c'est le fruit de l'arbre de la vie qui nous a été comme réouvert par le Christ lorsqu'il est mort sur la croix. Une Église qui fait l'expérience de la communion du corps de Christ, être proche les uns des autres, c'est ce qui frappe dans ce passage en particulier, leur relation de proximité tous les jours. Alors, c'est la vie du premier siècle après Jésus-Christ, ce n'est pas 2022, on se rend bien compte. Il n'y a plus de temple, on n'a peut-être pas loisir comme ça à se fréquenter tous les jours, mais enfin, être proche, rester proche les uns des autres, notamment par le partage du repas, c'est important. Une église qui sait partager le repas dans les groupes de maison ou après le culte du dimanche est une église où il fait bon vivre parce qu'on conserve cette communion, ce climat familial. C'est peut-être pas possible tous les dimanches, on s'entend, mais de temps en temps. La Sainte Cène, bien sûr, est la prière. Il persévérait dans tous ces domaines. La scène aussi est un magnifique moment que nous aurons l'occasion de partager tout à l'heure. Et je me rappelle, pardon de faire écho à mon passage parmi vous il y a tant d'années, mais je me rappelle avoir été très tranquille, pieusement assis sur mon banc à la Grand-Russaise un dimanche matin. En fait, fréquemment le dimanche matin, quand on partageait le pain et le vin, je ressentais très, très intérieurement, très profondément la présence de Dieu ici au milieu de vous. Dieu est présent lorsque nous rompons le pain et le vin, lorsque nous partageons la prière, lorsque nous sommes proches les uns des autres, là où deux ou trois sont réunis en son nom. Il est là. Alors non seulement la communion fraternelle, mais une loyauté au Seigneur et les uns aux autres jusqu'à l'hôpital, comme Olivier nous l'a rappelé, jusque dans les moments difficiles et délicats de nos vies. Et j'ai discuté tout à l'heure avec Anne-Marie, je me souviens du passage étroit qu'elle a vécu dans l'accompagnement de l'amour de sa vie, de son mari Bernard, il y a quelques années de cela. Jusqu'à la fin, il nous faut être loyal les uns vis-à-vis des autres, loyal au Seigneur et loyal dans notre soutien mutuel, le corps du Christ à l'hôpital. C'était un one-off, c'était un passage pour Olivier. Mais lorsque la maladie dure et que la mort frappe, nous avons besoin de consolation. Un philosophe français qui n'est pas français, qui n'est pas chrétien et pourtant français, a dit ceci. Il a dit la consolation est une nécessité. Nous avons besoin de consolation. Elle est toujours imparfaite, mais elle est nécessaire. Nous avons besoin les uns des autres. Une église qui connaît la Bible et qui est capable de l'employer. Voilà pourquoi formation disciples, voilà pourquoi études bibliques, les groupes de maison, entre autres, écouter assidûment, persévérer dans l'enseignement de la parole, la lire pour soi-même, évidemment, même à grands traits, sans entrer dans une étude fouillée, lire toute une lettre de Paul juste par amour de la lecture et de connaître ce que Paul a écrit. Relisez sans vous arrêter la lettre aux Galates ou Philippiens, première et dernière lettre de l'apôtre. La liberté pour les Galates et la communion dans le Seigneur. Pour les Philippiens, la joie du Seigneur, même dans les chaînes. Peut-être que le moyen de la mémorisation aujourd'hui, ce n'est pas de l'apprendre par cœur. On n'a plus ses cerveaux. On est devenu tellement audiovisuel qu'on n'arrive plus à enregistrer un texte. Déjà, lire, c'est compliqué. Mais la chanter, la fredonner. Il y a des cantiques que j'ai chantées ici, gamin, que je chante encore en prière tous les jours. Il y a ma prière, je ne devrais pas en faire l'étalage public, pardonnez-moi cet orgueil. Ma prière, elle est inspirée des cantiques que j'ai chantés ici. J'aime louer le Seigneur dans la prière. J'aime. Et le Seigneur me rappelle dans la prière ces vieux cantiques qui avaient une substance théologique parfois extrêmement profonde et qui nourrissent la prière, mais qui rappellent aussi à notre esprit la parole de Dieu. Alors chanter et chanter la parole. Une église qui prend l'évangélisation au sérieux. Alors c'est ici aussi que j'ai connu les flambeaux de l'évangile, flambeaux dont j'ai moi-même inauguré un groupe il y a quelques années dans ma région qui a inauguré son pavillon, tel père, tel fils. Mais je pense que le pavillon de Sushi est plus beau, plus grand et sera sûrement plus pérenne que le pavillon des flambeaux de Cossonay qui a duré à peine 10 ans. Grand drame. Mais le groupe des flambeaux ici à Cossonay, père existe, il est magnifique. Bravo à ceux qui le portent encore aujourd'hui, Véronique notamment. Et vous, église de Cossonay, qui avez vécu un très bon culte la semaine passée avec les flambeaux, bravo. C'est un moyen d'évangéliser. Je pense à la Rosée aussi, à la librairie dont j'ai pris quelques nouvelles tout à l'heure. Là aussi, moyen d'évangélisation extraordinaire à Cossonay. Vous y êtes, vous avez pris votre rôle au sérieux pour cette région. Et il nous faut garder à l'esprit que Jésus est notre seul salut et qu'il est pour nous. Salut, il l'est pour nous, il l'est pour tout un chacun ici. À Cossonay, dans les alentours. Il n'y a de salut en aucun autre. Ça, c'était la prédication de la première église, sa conviction. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. 4 premiers points, c'était peut-être les plus ardus, les plus longs, mais je ne vais pas accélérer pour autant. Les 5 suivants seront, j'espère et je crois, plus sobres. Une église qui s'engage à servir les besoins de la société. On fait moins de social, on a laissé ça aux églises historiques libérales qui ont laissé l'évangile de côté pour servir les gens dans leur contexte, quitte à laisser le message aux oubliettes. Et puis nous, on a fait du message un tel trésor qu'on en a parfois oublié le besoin très, très matériel, très humain des gens et de notre génération. L'Église doit connaître ses responsabilités et ses capacités, son potentiel. Nous pouvons aider notre prochain. Et puis l'Église, et c'est le cas lorsque vous soutenez Portes Ouvertes dans les nations, l'Église doit apprendre à résister à ceux ou à ceux qui aliènent l'humain, les gens, hommes et femmes. Nous avons un devoir d'amener la justice et le Christ à prophétiser sur nous des temps difficiles. Dans Matthieu 5, les béatitudes, c'est non seulement la persécution à cause du message, c'est aussi la persécution à cause de notre amour de la justice. Les deux vont de pair. Une Église autonome et libre de tout pouvoir et contrôle extérieur, alors quand on parle Église historique ou Église libérale en lien à l'État, nous autres, on se gargarise alors d'être parmi les bons. On est libre et on le restera. Nous ne sommes pas liés à l'État, nous sommes des églises autonomes. Et je crois que c'est au fond bénéfique. En tant que Portes Ouvertes témoigne de persécution lorsqu'un État, quel qu'il soit, s'acharne à mettre sa main de contrôle sur une communauté, on parle de persécution, lorsqu'il faut remplir des listes et puis être transparent vis-à-vis de l'État, et que l'État s'ingère dans les histoires, dans les affaires de l'Église. Pensez à la Chine aujourd'hui qui ne peut rien faire extra ou intramuros sans passer par le ministre des Affaires du culte. C'est un grand drame. Vous êtes pieds et poings liés au protocole administratif d'un État lourd, et puis vous êtes pieds et poings liés aux valeurs que trimballe le gouvernement qui vous dit que penser, ce que vous avez droit de prêcher. Évidemment que la liberté, telle que nous la vivons en Suisse en particulier, est un grand bénéfice et nous pouvons nous en réjouir. Utilisons-la pour faire connaître son amour. Une Église qui connaît les forces et les faiblesses de l'opposition, parce que liberté ne rime pas avec vie tout à fait facile. Quand il y a liberté, il faut aussi une bonne dose de responsabilité. Il faut savoir user de la liberté avec modestie dans la suivance de Jésus. Et nous devons aussi ouvrir l'œil sur les tactiques de l'ennemi aujourd'hui, interne et externe. Je ne développerai pas ce point-là en particulier. Il y a d'autres interventions de Portes Ouvertes et d'autres cours même que je donne ça et là. Vous avez failli, je crois, passer à la moulinette. C'est résister d'une foi ferme. C'est un cours extrêmement pertinent, extrêmement solide, qui donne le point de vue de l'Église persécutée sur le disciple aujourd'hui, ici en Occident également, et qui nous enseigne la manière dont la Bible nous dit de rester proche du Christ et de résister, ma foi, quand les tentacules de l'adversaire se montrent tenaces. Et nous avons nos pièges ici. Ce n'est pas la persécution, mais je dirais c'est plutôt la séduction, consumérisme et autres. Nous sommes extrêmement distraits et nous pourrions, à force de distraction, perdre le chemin qui mène au ciel. Quand on est scout, on sait lire une carte et on sait que parfois, quand les courbes topographiques, je ne sais même plus le nom, vous savez, ces courbes qu'on voit sur la carte se resserrent, on sait que ça va devenir un tout petit peu plus ardu, qu'il va falloir marcher plus lent, boire souvent et puis, ma foi, passer un mauvais quart d'heure parce que la pente sera raide. Peut-être le chemin est-il même glissant. Et puis, Dieu merci, il y a des panneaux jaunes et puis même des macarons jaunes sur les rochers. On sait qu'on doit suivre la piste. Eh bien, en chrétien, nous avons nous aussi à savoir lire la Bible et nous accrocher à tous les signes de la présence de Dieu et de son règne au milieu de nous pour garder la trajectoire fine jusqu'au bout, même s'il faut crapahuter, comme disait mon père, et marcher dur. Je vois Cédric tout à l'heure aussi. Avec Cédric, on a fait des raids dans les camps. Où es-tu, Cédric? T'es là. Je me souviens de tes godasses, en tout cas. Je les ai suivis longtemps. De derrière. Plus on suivait l'autre proche, plus on manquait à la vue de la piste qui était, ou du chemin qui était devant. Moi, c'était ma tactique. Je collais au basket de suite devant, puis comme ça, je voyais ses pieds, je marchais à son rythme et on arrivait au bout. Mais si tu lèves les yeux puis que tu vois la pente devant, tu dis « Ah, non !» Alors, là encore, proches les uns des autres, proches du Seigneur, et nous serons vainqueurs. Huitième point. Voilà, il y a d'autres choses que je pourrais évidemment... des choses que Portes Ouvertes met à disposition des églises ici aussi pour les rendre conscientes des dangers d'une foi réellement vécue. Elle n'est jamais innocemment laissée pour compte. Une église qui est audacieuse est prête à témoigner même face à la persécution, Alors peut-être ici, notre persécution, je disais, c'était notre laxisme, peut-être est-ce notre sécularisme, notre laïcité qui devient extrême, où il faut se garder de prendre parti, de dire notre conviction de chrétien évangélique sur le lieu de travail, dans l'entreprise, au sujet du genre, au sujet de certains soins, au sujet de la fin de vie. On doit apprendre à se taire parce qu'on nous le demande. Il faut rester soumis à nos autorités, c'est évident, mais il y a une forme de travail rébarbatif de la bien-pensance qui nous rend le travail plus difficile. Il va falloir peut-être un peu d'audace et trouver les niches dans lesquelles on peut encore témoigner volontiers et sans souci. Mais c'est quelque chose qu'il nous faudra peut-être découvrir. La force d'exister dans un monde qui n'a plus besoin de nous, un monde post-chrétien. La force de dire le message, l'audace d'oser affronter peut-être même certains reproches. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. Peut-être avez-vous certaines expériences ici et là de difficulté à exprimer votre conviction, ou même dire que vous êtes un chrétien convaincu, engagé. Dans ma région, le fait d'avoir démarré les flambeaux, d'avoir planifié la construction d'un pavillon a été comme béni du Seigneur. Nous n'avons pas rencontré d'opposition majeure. Et en 2 ans, non seulement les fonds ont été levés, le bâtiment est payé, il a été inauguré, ce qui est une grâce incroyable. Donc c'est possible. Et vous êtes vous-même témoin du temps qu'il a fallu pour bâtir ce bâtiment, mais de votre propre réussite, gloire à Dieu. Vous êtes dans vos murs, ici, dans un espace magnifique, lumineux et spacieux. Une église donc qui s'engage à partager les responsabilités, ça c'est peut-être l'apanage du conseil d'anciens et de tous les conseils ça et là que vous avez mis en place, une église extrêmement bien structurée, je le sais parce que je suis un ami de Marcus et il m'a souvent raconté la manière dont l'église s'est montée de toutes sortes d'organigrammes les plus pertinents, les plus justes possibles pour gérer l'église. Et peut-être sommes-nous ici bien lotis en termes de partage des responsabilités. Vous ne laissez pas le pasteur tout faire. Vous avez pris votre part dans le ministère et c'est sain et juste parce que le ministère est quelque chose qui se partage. Nous vivons le ministère de manière collégiale. Et finalement, nous en revenons à la case départ, au témoignage d'Olivier, à l'introduction de Anne-Claude, une église qui prie, acte 4, 29, dans la tourmente, dans les persécutions. Déjà, l'église se lève droite comme un homme uni. Et elle dit ces paroles qu'on pourrait lire plus que ce simple verset, il y a une continuité du texte jusqu'au verset 33. « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et si cette prière devenait la nôtre en Église, et si cette prière devenait la nôtre dans nos familles, dans notre travail, là où Dieu nous envoie, nous verrions sûrement quelques opportunités ou quelques passerelles s'ouvrir vers des gens improbables à qui on n'avait pas pensé annoncer le Seigneur. J'aimerais prier à la fin de cette prédication et puis ouvrir ensuite le temps de prière pour l'Église persécutée dans un deuxième temps, si vous voulez bien. Seigneur, tu nous as donné le bonheur, la joie d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous l'avons chanté, rien ne pourra nous séparer de ton amour, Seigneur, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, tu as tout accompli pour nous secourir, pour nous tenir la main, nous accompagner sur le chemin de la vie. Nous te sommes redevables de vivre des vies proches les uns des autres et proches de toi, loyales à toi, notre Seigneur, et loyales les uns vis-à-vis des autres aussi. Seigneur, que l'exemple de cette première église nous frappe encore l'esprit ce matin et que nous ne soyons pas oublieux de cette parole, mais que nous soyons exhortés à marcher avec témérité, avec courage, avec foi, en prière et en action pour te faire honneur, Seigneur. Renouvelle-nous dans la prière, renouvelle-nous dans notre lecture du texte biblique. Fais de nous des disciples zélés et courageux. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous propose donc de revenir, pour terminer ce temps, revenir à l'Église persécutée, qui nous enseigne, hein, ces 10 points sont issus de leur expérience, nous ne sommes pas déconnectés par la prédication à leur cœur et à leur vécu, mais nous allons prier pour elles, pour eux, nous allons prier avec ces trois sujets qui s'ouvrent à vos yeux ici à l'écran derrière moi. Tous les Joseph, nous les appelons ainsi, ces chrétiens contraints à la clandestinité. Prions que par la grâce de Dieu, ils trouvent un ou deux frères, sœurs qui puissent les accompagner, que l'Esprit-Saint les visite. Toutes les habits, ces femmes, tous les habits, non pas les nôtres, mais les habits, en exil, que Dieu prenne soin de leurs besoins, leur accorde sa sécurité, de la stabilité. Et que tous ceux qui ont besoin d'aide puissent recevoir l'aide au moment opportun, par portes ouvertes ou par une autre association qui volera à leur secours. Prions. Je vous propose de faire, si vous le voulez bien, des petits groupes. Vous êtes en rang avec 3 ou 4 ou 2, c'est égal. Des petits groupes, 2, 3. Et pendant 5 minutes, on prie selon votre inspiration sur ces 3 points. Et je reprendrai la parole pour conclure, avant de la céder à Anne-Claude. Seigneur, nous te prions pour toute ton Église dans les nations nombreuses, trop nombreuses, là où elle souffre, là où elle est discriminée, persécutée à cause de ton nom. Tu as dit « Heureux êtes-vous lorsque vous êtes persécutés à cause de la justice ou à cause de mon nom ?» Seigneur, nous prions que cette approbation de Dieu sur la vie de tes disciples qui passent par la tourmente soit telle, Seigneur, qu'ils aient en toi non seulement le nécessaire pour vivre, mais même la joie de leur salut, le zèle pour poursuivre l'aventure malgré les coups. Oui, renouvelle, Seigneur, de fond en comble l'espérance, la vie et la foi de ton Église. Et Seigneur, pour nous-mêmes qui vivons en liberté, dans des sociétés aisées, dans nos petits soucis de gens riches, Seigneur, ne nous laisse pas dériver, ne nous laisse pas dormir, ne nous laisse pas nous assoupir, Seigneur, mais que les paroles d'Anne-Claude au début de cette matinée résonnent très fort à notre esprit. Nous voulons voir Jésus élevé sur notre nation. Nous voulons, Seigneur, encore soupirer après toi, prier comme des gens désespérés pour voir ton royaume et ta justice, ici, chez nous, dans nos couples, nos familles, nos églises et en société. Glorifie ton nom, ici et dans les nations, au nom de Jésus, Père. Amen. Merci beaucoup pour votre attention et vos prières. Place à Anne-Claude pour la suite.